Un jour, un livre, un auteur, Philippe Nolli, Diego Arabal, toujours fidèle à ce rendez-vous. Ça fait quand même maintenant quelques années hein, que nous sommes ensemble et que nous...
Dix ans. C'est la 11e année, là.
C'est la 11e année.
Oui. Ouais,
le temps passe et c'est que du bonheur. On a eu des invités, on a des gens qui sont venus avec vous, ouais. Vos enfants. Et puis,
plus de 200 émissions, Philippe Supercaz.
200 émissions.
Oui. Au prix où vous, plus de 200.
Au prix où nous avez... Vous nous coûtez, vous êtes à l'ISF. Hein.
Ouais, voilà. Mais à l'ISF inversé, quoi.
Alors, FSI.
Un jour, un livre, un auteur. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas d'invité, Philippe Nolli, mais vous aimez bien de temps en temps faire ça. C'est que vous avez eu des coups de cœur littéraires.
Exactement.
Et des livres que, bon, c'est difficile d'avoir souvent les auteurs, parce que par exemple, il y en a un qui c'est Anne Sinclair.
Voilà.
C'est un peu compliqué de l'avoir sur l'antenne, vu sa notoriété et puis comment l'approcher, c'est compliqué. Par contre, ce livre vous a vraiment marqué et vous vouliez au moins nous le présenter.
Voilà. Alors, il y a ce livre là d'Anne Sinclair qui s'appelle donc La rafle des notables. Donc il faut savoir que Anne Sinclair donc avait son père qui était juif qui a été déporté. C'est une histoire qui est quand même assez méconnue que j'ai découverte donc par le biais de ce livre donc La rafle des notables qui est publié chez Folio. Alors je propose souvent des poches. Pourquoi? Parce que à cette époque où l'inflation est quand même forte, les folios comme tous les poches c'est quand même des livres moins chers. Donc le but c'est quand même que les gens puissent lire. Mais à un prix effectivement qui soit abordable, ça je tenais quand même à le dire dans cette émission, puisqu'on a la chance en France d'avoir effectivement des livres de poche, donc il faut aussi les recommander dans cette forme-là, parce que dans l'autre forme c'est 9 ou 10 euros de plus. Donc Anne Sinclair, La rafle des notables, qui avait son père donc qui a été déporté, puisqu'il y a une rafle des notables durant la Seconde Guerre mondiale, qui est effectuée à Paris, donc avec des notaires, des avocats, des juges, donc qui était bien ciblé sur des gens qui étaient juifs et qui avaient des fonctions au sein de l'État. Je vais vous lire la quatrième de couve parce que vous verrez que Anne Sinclair en fait a passé cette histoire plus ou moins sous silence pendant des années avant de s'y intéresser un jour. Et ce qui est intéressant, c'est pourquoi on s'intéresse aussi à un moment donné à ce passé. Voici la quatrième de couve de Anne Sinclair, La rafle des notables. La rafle des notables commença dans la nuit du 12 décembre 1941. Sans doute de la même façon que des milliers d'autres en France occupée, des millions d'autres en Europe nazifiée, par un coup de sonnette qui fracassa le silence de la nuit au numéro 46 de la Cossue rue de Tocqueville à Paris. Dans ce récit intime, Anne Sinclair met en lumière un chapitre méconnu de l'histoire, celui de juifs français, chefs d'entreprise, avocats, écrivains, magistrats, arrêtés et envoyés au camp de Compiègne. Compiègne, pour mémoire, c'est dans l'Oise. Ils seront rejoints par 300 juifs étrangers en attente d'un convoi pour Auschwitz. Parmi les notables, Léonce Schwartz, le grand-père de l'autrice. Je vais vous lire le début de ce livre parce qu'il est quand même étonnant. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, Diego Arabal.
Oui, je savais que son père avait été raflé.
Que son père avait été raflé.
Ce qui rend d'autant plus indigne la remarque d'un certain... journaliste qui se prétend homme politique et qui prétend que Pétain aurait protégé et sauvé les juifs français.
Ouais, tout à fait. Ça, effectivement, c'est vrai que c'est une affaire de révisionnisme, clairement. Vous connaissez cette histoire, Philippe Supercaz, ça vous parle du tout?
Pas du tout. Non, mais j'écoute avec attention. Parce que c'est aussi ça, aussi le but de cette émission, c'est qu'on apprend des choses.
Et exactement. Et
sur des sujets voilà, très particuliers.
Alors, très particuliers, puis où c'est important, c'est que je pense que, bon, il ne faut, par rapport à la remarque très juste que faisait Diego Arabal, il ne faut jamais cesser de parler de ce qui s'est passé, effectivement, durant la Seconde Guerre mondiale, avec la rafle des Juifs, et puis cette rafle-là, bien particulière, hein, qui commence le 12 décembre 1941 à Paris. Et vous allez voir ce qu'en dit en tout début Anne Sinclair, en tout début de son roman, je le lis. Cette histoire me hante depuis l'enfance. Et pourtant, si les sagas familiales interpellent ceux qui avancent en âge, la mienne ne m'a d'abord intéressé que de loin. L'immédiateté ayant eu longtemps dans ma vie de journaliste plus d'attrait que les histoires du passé. Néanmoins, ce chapitre-là continue de me poursuivre. Pour le côté romanesque que je n'ai pas pu élucider, pour les questions que je n'ai pas posées, pour les détails que je n'ai pas demandés. On n'interrogeait pas les grands quand on était enfant, parce que si les confidences ne nous étaient pas faites, il nous semblait indécent de les provoquer. Parce que cela nous pesait aussi. Écouter les histoires des anciens de la famille, dont on se moquait bien, auxquels on ne comprenait pas tout, nous embarrassait et empiétait sur les heures de jeu. Pour autant, j'aurais pu, plus tard, chercher à en savoir davantage. Pourquoi ne l'ai-je pas fait ? Et pourquoi mon père ne m'a-t-il rien raconté, alors qu'assez tôt, j'ai adoré qu'il me lise son journal de guerre, dont il expurgeait les pages qui ne regardaient pas l'adolescente que j'étais. J'ai vite connu l'essentiel de l'épopée de ma famille maternelle, les Rosenberg, leur fuite de France les 16 et 17 juin 1940, leur arrivée en Amérique, le pillage de leurs biens. J'ai d'ailleurs eu envie de raconter cette aventure, c'est dans le livre 21 rue de la Boétie chez Grasset, paru en 2012, qui mêlait l'art, la guerre, la grande histoire tragique, la petite histoire familiale, les ironies de destin. Je rôdais autour de l'autre, celle de ma famille paternelle sans y pénétrer, et comme toujours, quand les témoins disparaissent, quand plus personne n'est là pour affirmer ou raconter, l'urgence s'impose, car les bribes de mémoire qui nous sont parvenues s'évanouiront après nous. Voilà, ce qui est très beau, c'est qu'à un moment donné se pose effectivement cette question de se dire « J'ai des gens qui me suivent, je suis un trait d'union ». Qu'est-ce qu'il va falloir effectivement que je recherche pour raconter ? Et elle décide donc de faire ce livre, donc Anne Sinclair, La rafle des notables, paru chez Folio, qui n'est pas un grand livre à lire. Hein, il y a à peu près 130 pages, mais on voit bien que le but qu'elle a là-dedans, c'est effectivement de raconter, de se délester d'une charge. Et comme elle le fait au départ, elle dédie ce roman à ses enfants, et à ses petits-enfants, c'est-à-dire à tous ceux qui vont être chargés de transmettre cette mémoire familiale de la petite histoire, effectivement, dans la grande. Et de ne jamais oublier, parce que comme le rappelait très justement tout à l'heure Diego Arrabal, la seule manière d'éviter, effectivement, le révisionnisme, c'est aussi de passer par la littérature.
Tout à fait.
C'est aussi que ceux qui ont eu dans leur famille ce témoignage-là et qui savent écrire, le fassent, pour que ces témoignages effectivement soient partagés et pour que des radios, des émissions comme la nôtre, hein, Philippe et M. Barcaz, parlent effectivement de ce thème-là durant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ça c'est vraiment un livre que je recommande, hein, puisqu'en fait il y a eu 1043 détenus qui ont été déportés, hein, donc on le dit, des chefs d'entreprise, des juges, des avocats, des notaires, des huissiers de justice, que des gens effectivement qui avaient des fonctions extrêmement fortes dans Paris, alors qui ont forcément désorganisé, puisque ben, ces gens-là qui n'étaient plus là, hein, ils n'ont pas pu accomplir leurs fonctions, donc on s'est tiré quelque part une balle dans le pied, voilà, hein. On rappelle bien qu'à l'époque, hein, c'était l'État français, c'est-à-dire il n'y avait plus de respect effectivement de la Constitution, il faut le rappeler.
Il était suspendu et puis il y avait plein pouvoir pour
exactement.
pour Pétain. Hein.
Voilà, seuls 80 députés.
Je dis toujours à dessein Pétain et pas le maréchal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été
exactement.
Dégradé. Et qu'il a été frappé d'indignité nationale. Voilà. Et qu'il est toujours frappé d'indignité nationale.
Donc il faut
remettre les pendules à l'heure.
Quoi. Alors, pour la petite histoire, vous savez, pour parler du maréchal Pétain, qu'il a été donc gracié par le général de Gaulle, envoyé à l'île d'Aix. Si un jour vous allez à l'île d'Aix, j'y étais, vous verrez qu'il y a une plaque commémorative sur sa maison pour dire qu'il a fini ses jours sur cette île, l'île d'Aix, en Charente-Maritime. Mmh. Et il est enterré au cimetière de Port-Joinville, donc dans l'île d'Aix, avec par moment, on le sait, hein, des personnes qui vont sur sa tombe presque en pèlerinage, et notamment des gens qui sont proches de l'extrême droite, d'où l'importance, je trouve, effectivement, de parler de ce livre. Je vais lire un dernier passage avant que je parle de l'autre roman pour lequel, effectivement, j'ai fait une sélection. C'est en page 49 du livre, ça s'intitule « Le camp des Juifs » et elle décrit ce qui se passe donc dans ce camp, donc à Compiègne, je le rappelle, qui est un camp de transit avant que les personnes effectivement ne soient déportées sur Auschwitz. Alors on précise, hein, elle a connu son père puisque son père en est revenu, mais très affaibli, et il est mort donc quelques jours après la fin de la guerre, donc après le 8 mai 1945, voilà. Donc c'est quand même un thème extrêmement touchant. Réveil et violent, retour à la conscience. au bout de quelques heures de mauvais sommeil, avec la course aux latrines qu'ils apprendront à fuir autant que possible. Le froid qui sera avec la faim leur compagnon de malheur est transperçant. Léonce, le grand-père donc d'Anne Sinclair, a deux couvertures. Mais ce n'est pas le cas de tous, notamment de ceux arrêtés la veille hors de leur domicile et qui n'ont pas pu prendre de bagages. Un détail qui rassure d'ailleurs ceux qui vont apprendre à saisir le moindre indice pour combattre leurs craintes. Les Allemands ne peuvent vouloir déporter vers l'Est des prisonniers dépourvus de vêtements chauds. Il s'agit donc sûrement d'une mise en scène pour les effrayer, ou tout au moins d'une situation très provisoire. La naïveté qui leur fait imaginer une quelconque humanité des nazis ne fait que débuter. Voilà. Je recommande vraiment ce livre à lire, d'Anne Sinclair, La rafle des notables, chez Folio, hein, donc, qui parle effectivement de ce moment méconnu. Hein, vous en avez entendu parler, Diego Arrabal, Philippe Subercaz, hein, vous n'en avez jamais entendu. J'étais dans la même situation. Je savais qu'elle avait eu un grand-père qui possédait des peintures, des biens, etc.
Oui, c'est celui qui a réussi à partir.
C'est celui
aux
qui a
États-Unis.
Réussi à partir, donc oui, la famille Rosenberg. Mais l'autre partie de la famille, donc la famille Schwartz, donc son grand-père Léonce Schwartz, voilà, lui par contre a été arrêté. Oui, oui. Et voilà, c'est vraiment un livre à lire.
Et dans le cadre de cette rafle de notables, il y a eu aussi, de même qu'en Allemagne nazie, hein, il y a eu aussi les renvois d'enseignants du supérieur, d'universitaires juifs. Et il y a eu aussi donc des rafles parmi eux, d'un nombre important d'universitaires qui sont partis aussi dans ce camp.
Qui sont partis dans ce camp. Alors, je précise que dans le livre, elle raconte effectivement une histoire que vous citiez tout à l'heure par rapport au maréchal Pétain. C'est un futur déporté donc, qui était de confession juive, décoré durant la Première Guerre mondiale, décoré de la médaille militaire, qui a écrit au maréchal Pétain, alors ça à l'époque, ça s'est su, en renvoyant sa médaille militaire, et en disant « c'est indigne de renvoyer des gens qui ont défendu la France lors de la Première Guerre mondiale. » Donc il faut se rappeler que la médaille militaire, c'est la plus haute distinction militaire distribuée aux soldats, donc depuis le deuxième classe jusqu'à l'adjudant-chef, c'est-à-dire au niveau des sous-officiers. D'accord ? C'est la plus haute distinction militaire qui existe. C'est au-delà de la Croix de Guerre, qui est déjà une haute distinction militaire. C'est la médaille militaire. D'accord ? Donc là, elle parle effectivement de cet homme qui décide effectivement de renvoyer ça. Alors c'est une lettre après qui a été publiée, qui est connue aujourd'hui, que l'on peut voir notamment au mémorial donc à Paris, au mémorial juif donc à Paris, voilà. Donc vraiment, je recommande ce livre, La rafle des notables. L'autre livre dont je voulais vous parler, alors dans un esprit complètement différent, c'est de François-Henri Désérable, c'est L'usure d'un monde, avec un sous-titre, Une traversée de l'Iran. C'est publié chez Gallimard. C'est un livre qui est récemment sorti, dont ont parlé certaines radios nationales, mais qui n'a pas eu non plus une couverture si immense que ça. Je l'ai lu, je l'ai beaucoup apprécié, c'est pour ça que je voulais vous en parler, sur un jour, un livre, un auteur. Alors, pour une raison très simple, c'est que c'est une traversée de l'Iran. J'ai vécu en Iran moi-même quand j'étais gamin, donc c'est un livre forcément qui m'a touché, qui a renvoyé des échos. Il faut savoir que quand François-Henri Désérable part en Iran, il contacte le ministère des Affaires étrangères, qui lui déconseille très formellement de partir en Iran, en lui disant « Vous risquez votre vie, nous vous recommandons de ne pas partir. » Et donc, malgré tout, il décide de partir. Et il décide de partir à la rencontre des Iraniens. Alors, à un moment donné, il y a ce passage très beau qui se déroule donc à Téhéran. Alors, en persan, la liberté, on dit Razadi. Et à un moment donné, une des jeunes filles qui les rencontre lui dit « Bon, est-ce que vous voulez voir comment fonctionne l'écho à Téhéran ?» Ben, il dit « Oui. » Et alors, elle se met à crier dans la rue « Azadi !» Et des gens par les fenêtres commencent à dire « Azadi !» Et puis de plus en plus loin « Azadi ! Azadi !» Puis on entend l'écho qui se perd. Et donc les gens se relaient jusqu'à ce qu'elles n'entendent plus le bruit, mais l'écho continue dans Téhéran. Voilà. C'est comment les Iraniens, à un moment donné, par ce biais-là, arrivent effectivement à lutter, puisque quand ils sont dans des grands immeubles qu'ils font ça, la police, les Pasdaran, hein, les gardiens de la Révolution, ne peuvent pas arriver effectivement à les repérer. Voilà. C'est vraiment un livre admirable. Et je vais vous lire justement quel est l'échange qu'il a avec le ministère des Affaires étrangères. C'est le début du roman, page 13, de L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran. Monsieur Désérable, je n'ai pas pour habitude de filtrer les appels des numéros inconnus. Il y a dans l'inconnu une part de mystère qui demande à être élucidée. Même si le plus souvent le mystère est un démarcheur téléphonique ou un emmerdeur dans le genre, quand sur l'écran de mon téléphone s'affiche un numéro inconnu, je décroche. Bonjour, c'est le centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Vous avez informé l'ambassade de France d'un projet de voyage en Iran. Je vous le dis tout net, renoncez-y. Il est formellement déconseillé, vous m'entendez, formellement déconseillé de se rendre en Iran. Nous avons placé tout le territoire en zone rouge, il n'y a quasiment plus de Français sur place. Ceux qui y sont encore sont en train de rentrer, et ceux qui ne rentrent pas, c'est qu'ils sont en prison. À l'heure où je vous parle, nous avons plusieurs de nos compatriotes sous les verrous. Le risque d'arrestation et de détention arbitraire est très élevé, vous m'entendez, très très élevé. S'ils vous arrêtent, ils monteront un dossier de toutes pièces et ils vous condamneront pour Dieu sait quoi, espionnage, propagande, collusion en vue de porter atteinte à la sécurité nationale. Ils trouveront un motif, ils trouvent toujours un motif. Vous deviendrez un pion, une monnaie d'échange. On ne pourra pas vous accorder la protection consulaire. On ne pourra pas vous rendre visite en prison. On ne pourra pas faire grand-chose. En somme, et vous y resterez des années, un an, deux ans, dix ans, peut-être. Allez savoir. Vous m'entendez, monsieur Désérable ? C'est que l'Iran n'est pas un état de droit, monsieur Désérable. Renoncez à votre voyage. J'aimerais bien, mais au même moment, d'un haut-parleur, une autre voix grisillée. Madame, monsieur, bonjour, je suis votre chef de cabine. Le commandant de bord et l'ensemble de l'équipage ont le plaisir de vous accueillir à bord de ce vol à destination de Téhéran. Veuillez attacher votre ceinture, éteindre vos appareils électroniques et mettre votre téléphone portable en mode avion. Monsieur Désérable, vous m'entendez ? Voilà, donc il a reçu l'appel du ministère de l'Intérieur alors même qu'il prenait son vol et il est parti. J'explique après la difficulté, vous allez voir, à obtenir un visa. D'abord, il m'avait fallu obtenir un visa. Je m'y étais pris à l'avance, très à l'avance, 60 jours avant mon départ. Ça va, me disais-je, je suis large. Je ne l'étais pas. On me proposait un rendez-vous 6 mois plus tard. Une agence qui avait ses entrées à l'ambassade pouvait débrouiller l'affaire en 3 jours. Je n'avais qu'à virer 40 euros sur tel compte. Attention, il ne fallait pas mentionner Iran dans le motif du virement, sinon le paiement serait refusé par la banque. Et j'obtiendrais un rendez-vous dans un délai raisonnable. Ce pot de vin semi-légal fonctionna. 3 jours plus tard, j'étais avenue d'Iéna, devant l'ambassade de la République islamique. L'entrée se faisait par la rue du derrière. On passait dans un sas, on laissait son téléphone, on prenait un ticket. État civil, passeport, affaires sociales, visa, il fallait choisir. Une 20aine de personnes attendaient dans la salle. J'étais la seule à demander un visa. Si l'on me posait des questions, une amie m'avait conseillé de jouer les bonnets. Des manifestations ? Comment ça, des manifestations ? Moi, les gens, surtout ceux qui tamponnent des passeports, je suis partisan de ne pas trop les prendre pour des cons. Si l'on m'interrogeait sur ma profession, je dirais écrivain, c'est-à-dire aussi proche d'un journaliste qu'un charcutier l'est d'un boucher. Or, les journalistes, la République islamique ne leur accordait plus de visa. Elle leur offrait le gîte et le couvert, mais derrière les barreaux. Et si l'on me demandait pourquoi l'Iran, pourquoi maintenant, je raconterais la vérité, je dirais que ce voyage était prévu de longue date et je prononcerais le nom d'un sorcier de la route, Nicolas Bouvier. Alors pourquoi Nicolas Bouvier ? Parce qu'en juin 1953, Bouvier rejoint son ami Thierry Vernet à Belgrade. Ils ont 24 et 26 ans, ils ont grandi à Genève, ils se sont connus 10 ans plus tôt sur les bancs du collège. L'un écrit, l'autre peint. Ils ont une Fiat Topolino, 2 ans devant eux et de l'argent pour 4 mois. Le programme était vague, donc écrit l'auteur, qu'il cite, mais dans de pareilles affaires, l'essentiel est de partir. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons. Et on en trouve qui ne valent rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres, jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Les deux garçons traversent les Balkans, l'Anatolie, l'Iran, qui ne s'appelle plus la Perse, font une halte à Quetta au Pakistan et se séparent 1 an et demi plus tard à Kaboul. 10 ans après leur départ, Bouvier en tire un récit illustré des dessins de Vernet, L'usage du monde. Et le titre de l'ouvrage de François-Henri Désérable, c'est L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran. Je ne vais pas vous en dire plus, parce que c'est un roman absolument formidable, c'est un récit sur l'Iran, vu de l'intérieur, qui est très récent. L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, c'est un récit publié chez Calimard par François-Henri Désérable. Voilà, c'était ma sélection. Philippe Subercase et Diego Arrabal de la journée. Anne Sinclair, La rafle des notables chez Folio. François-Henri Désérable, L'usure d'un monde, une traversée de l'Iran, c'est un récit chez Gallimard. 2 livres complètement différents, qu'on va lire pour des raisons différentes.
Diamétralement opposées.
Mais qui sont des livres qui font réfléchir. Or, ce qu'on aime bien dans cette émission, c'est aussi proposer des livres qui nous font réfléchir.
Et qui nous font grandir aussi.
Et qui nous font grandir,
ça,
exactement.
C'est sûr.
Tout à fait.
Merci beaucoup Philippe Nouni, voilà, pour ces deux propositions de lecture que vous nous avez faites, parce que vous êtes capables tous les deux effectivement de nous proposer de très 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 jolis livres à lire, et ça c'est plutôt bien, voilà.
Et comme disait Diego Arrabal il y a quelques semaines de ça, il disait « et nous, nous lisons les livres », ce qui n'est pas le cas de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des émissions dans lesquelles je ne suis pas persuadé que tous les chroniqueurs ont effectivement lu les livres. Je pense qu'ils ont des gens qui leur lisent et puis qui mettent...
Moi, quand je vous ai reçu, je ne l'avais pas lu. Et pourtant, je crois qu'on en a quand même assez bien parlé.
On en a assez bien parlé, voilà.
Bah, et surtout, il faut laisser l'auteur aussi
s'exprimer.
C'est vrai que dans beaucoup d'émissions littéraires...
Ah oui, non, c'est juste des notes.
Il y a une armée de petites mains... Ou de petits yeux.
De collaborateurs, on est collaboratrices.
Oui,
mais quand on est poli, on dit ça. Diego Arrabal.
Comme on vient de parler de la période de la Deuxième Guerre mondiale, j'évite le terme de collaborateur.
De collaborateur, oui, c'est vrai, vous avez raison. J'y avais pas pensé, oui, c'est vrai, j'y avais pas fait le lien.
Mais effectivement, Pivot ne doit pas lire la totalité des bouquins. Il a des petites mains qui font ce travail-là, qui lui font des fiches de lecture. En revanche, je pense que quand les fiches de lecture sont intéressantes, je pense qu'un gars comme Pivot lit le livre avant d'en parler à l'antenne, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres émissions
littéraires. Et même il y a certaines émissions littéraires qui, contrairement, je pense, à la nôtre, sont un peu pénibles à écouter. Voilà.
Ça peut être un peu pédant. Nous, c'est vrai qu'on a quand même cette volonté. On nous fait souvent la remarque qu'on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux. On essaye de faire ça dans la joie et la bonne humeur. C'est important. Mais on peut parler quand même sérieusement de ces deux livres qui sont quand même deux livres très sérieux. Quoi.
Ouais, tout à fait.
La Rafle des Notables, ça parle quand même d'un sujet qui parle de la déportation, et l'autre de l'Iran. Quoi. C'est pas des...
Ouais. C'est pas tout à fait.
Pas des thèmes légers, quoi.
Et on va terminer par une note légère. Tiens, on va saluer une auditrice, Féchère Philippe Nouni, qui nous écoute sur La Marque Pontac, qui est très étonnant parce qu'elle est très éloignée de la religion. Et elle écoute Radio Présence parce qu'elle est tombée sur cette émission, Un jour, on livre un auteur, et elle adore. Et donc, elle nous écoute régulièrement. Elle habite à La Marque Pontac. On la salue. Et à la semaine prochaine.
Ouais, à la semaine prochaine.
Au revoir.